Dutrisac. L'original. Radio. Dutrisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Bon jeudi 19 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'émission à la mitaine. Pas d'ordinateur, à la mitaine. On a gaspillé 2 arbres et demi, un frein, un chêne, une épinette pour imprimer mon le menu du jour. Alors, à 12h15, on va revenir sur cette peine de 40 mois à une technicienne en éducation de 44 ans parce qu'elle a eu une relation déplacée, on s'entend, avec un élève de 16 ans. 40 mois de détention pénitentiaire pour l'avoir agressé sexuellement. Moi, sincèrement, j'ai mon voyage. Je n'en reviens pas. Quand on voit des comparatifs avec des proxénètes qui ont 18 mois de prison, 22 mois, il y en a un, là, il a violé une fille. Il était en gang, les courageux. Ils l'ont violé jusqu'à temps qu'elle s'évanouisse. Il y a eu, je pense, 42 mois. Là, tu te dis, attends une minute, là. Ce rapport-là, il n'y avait pas de violence. C'était déplacé. C'est comme si mon âme était amoureuse de son âme. Et on n'est pas de femme ta gueule, on va te violer en gang jusqu'à temps que tu sois désensibilisé, ce que les gangs de rue font. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Comme sentence, ça n'a pas d'allure. On va en parler avec Michel Doré à 12h15. Aussi, à 11h15, qu'est-ce qu'on fait à 11h15? Je me souviens pas. Là, j'ai des faits. Ah oui, Régent Thomas sur la variole du singe, sacramouille. Comme si, tu sais, on n'avait pas assez avec la pandémie, la grippe aviaire, le sida. Là, on ajoute la variole du singe, qui est finalement le chancre mou. Oui, bon appétit si vous êtes en train de déjeuner. Bon, on est avec Didier Deramont, qui est directeur général chez à l'Association des directeurs de police du Québec. Il est pas là encore? Comment ça fait qu'il est pas là? Il est où, M. Deramont? Il nous a appelé tantôt, il avait hâte de venir en entrevue, puis il est pas là. Bon, Marika, bonjour.
Marika Simon. Bonjour, Benoît.
Bon, on va faire les nouvelles culturelles. Je te dis, là, aujourd'hui, pas d'ordinateur. Regarde-moi comment je suis démuni, comment je suis mélangé.
C'est quoi le problème?
C'est quoi?
C'est Mercure rétrograde. Ah, là, je t'amène en astrologie. Hein?
Oui.
Ah, là, je viens de te perdre.
Là, tu viens de,
là, je viens de te perdre.
Je suis larguée, là, t'as même pas idée à quel point. Ça veut dire quoi, ça, au juste?
Mercure rétrograde, c'est la planète des communications. Et quand Mercure, la planète Mercure rétrograde, donc va à l'envers, ben là, c'est là que la technologie, les communications, tout part en vrai. C'est
OK.
Ça.
Et à quel moment vous sacrifiez une vierge dans cette secte-là? C'est bon. Bon, Marika, t'as regardé Squid Game, la série?
L'as-tu écouté, toi?
Moi, j'ai regardé au complet.
Puis, fan?
Non, pas fan.
On reste avec un...
Mais fascinant.
Fascinant,
pour
oui,
toutes
c'est
les
bon
mauvaises
mot.
Raisons.
Mm-hmm, exact.
Hein? La violence, les rapports tordus entre les personnages, l'abus de pouvoir, c'est tout ce qu'on aime.
Fascinant, oui, tout ce qu'on aime. je serais pas allée jusque-là. Ben, si t'as aimé, bonne nouvelle, saison 2. Qui a été annoncé hier par le créateur qui s'appelle Dong Yonk. Et donc, ben, on savait déjà qu'il allait avoir une saison 2, mais là, on a un peu plus de détails. On sait que la saison 2 va arriver vers la fin de 2023, début de 2024.
Okay.
Va falloir être patient. C'est à peu près deux ans et demi après la diffusion de la première saison. Mais c'est pas si long que ça parce que seulement la première saison, ça a pris près de 10 ans avant qu'elle voie le jour.
Ouais.
Quand le créateur a écrit la série, ben en fait, qui était un film au départ, en 2009, vraiment, on lui a fermé la porte en lui disant, c'est beaucoup trop violent, premièrement, et deuxièmement, c'est beaucoup trop irréaliste. Mmh. Finalement, bon, il a fait des films à succès, puis là, on lui a donné une seconde chance, et s'est rassis avec son scénario, puis là, il a repensé à ça, il l'a présenté à Netflix, et là, on connaît la suite, hein. On sait que Squid Game, honnêtement, c'est un des grands succès de Netflix. Ça a battu beaucoup, beaucoup de records. Vraiment, là, dans les 28 premiers jours de la diffusion, là, on parle de 1,65 milliard d'heures de visionnement. C'est du stock.
Hallucinant.
C'est du monde devant leur écran.
Puis ça transcende toutes les cultures, hein?
Mm-hmm.
C'est l'histoire, là. Et que ça soit coréen, que ça soit japonais, hongrois, on s'en fout. Mais ça, c'est l'affaire des plateformes comme Netflix.
Qui réussissent à nous réunir devant notre écran.
Absolument.
Peu importe on est où.
Devant toutes les cultures, là, scandinaves, toute la gang.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des sujets qui sont universels quand même, dans le sens que...
Le meurtre.
Mais encore une fois, mais en fait, lui, il part de la prémisse que la solidarité, en fait, la question qui se pose, c'est la solidarité entre les humains existe-t-elle vraiment? Alors, c'est comme ça, là. Okay.
On
c'est
a
comme
la réponse, hein?
Ah, écoute, ouais. On n'est pas si sûr que ça.
Est-ce que ça te dérange juste de m'attendre une minute ou deux ou 15 ou 10?
Avec grand plaisir.
Je vais régler le cas de M. De Ramon, qui est en ligne. Didier De Ramon, qui est directeur général à l'Association des directeurs de police du Québec. M. De Ramon, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Pas très ponctuel pour une police, hein? Je suis très déçu.
J'étais là à l'émission avant, mais je pense que ça a débordé un petit peu.
Oui, c'est ça. Alors, ben, vous savez, Martineau, il est pas fiable. Vous savez comment que c'est. Bon, et parlez-moi de ce projet de loi C-22, puis on va en parler, M. De Ramon, de façon à ce que vraiment les gens qui nous écoutent, là, que ça soit pas, tu sais, un langage judiciaire ou politique, là, qu'on essaie de comprendre ce que ça signifie, ce projet de loi C-22, parce que il y a Pierre Brochet, qui est le président de l'Association des directeurs de police du Québec, qui a pris la parole devant le comité de la justice hier à Ottawa, justement pour donner son point de vue sur ce projet de loi qui vient du gouvernement libéral. Alors, expliquez-nous d'abord le projet de loi à vos yeux, puis ce que ça implique.
Juste pour faire la distinction, c'est qu'on a comparu dans le projet de loi C5, hein, pas C22.
Ouais.
Bon, C22 est un... Ben non, mais vous avez raison aussi, là, parce que C22 est un autre projet de loi où est-ce qu'on adresse aussi les peines minimales. Là-dedans, pour du trafic de stupéfiants, pour toutes des infractions relatives aux drogues et aux substances. Bon, la position, juste vous faire ça clair, notre position au niveau des chefs de police du Québec par rapport aux peines minimales, là, c'est qu'on n'est pas d'accord, là, qu'on enlève, qu'on abroge la loi là, pour enlever les peines minimales. Je pense que dans un contexte de violence comme on vit présentement dans le milieu urbain, c'est un mauvais message à envoyer à la population, puis c'est un mauvais message aussi à envoyer aux gens qui commettent ces actes criminels-là là, sur la rue. Mmh. Alors, c'est un peu ça qu'on est allé dire au comité de justice à la Chambre des communes.
Parce qu'on comprend, M. De Ramon, qu'il y a toujours des peines maximales. Tu peux pas en donner plus que ce que prescrit la loi, mais donc il n'y aurait pas de peine minimale. Ça relèverait du juge, finalement.
Tout à fait. Puis le juge doit prendre en considération plusieurs facteurs, bien entendu. Donc, on arriverait avec peut-être des disparités à gauche et à droite, mettant en lumière certaines jurisprudences qui vont faire loi, là. Donc, on arrive avec des choses. Hein, c'est un message. Tu sais, c'est des crimes qui sont importants, qui sont graves. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une conséquence qui soit grave également.
Ouais.
Bon, on est d'accord qu'il y a une surreprésentation de certaines populations dans le système carcéral. Ça, on est d'accord. Mais on ne croit pas que ça soit la bonne solution d'enlever les peines minimales pour ces crimes. D'ailleurs, on n'a pas juste dit qu'on n'était pas d'accord. On est arrivé, on a proposé aussi une solution. Hein.
Également,
la solution qu'on a proposée aux législateurs, comme il se fait dans d'autres pays d'ailleurs, au Royaume-Uni, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la Suède, puis certains États américains, en fait, c'est qu'on pourrait donner un pouvoir discrétionnaire au juge dans certains cas d'y aller avec une clause dérogatoire, de ne pas appliquer la peine minimale. Mais il faudrait que d'entrée de jeu, ça soit applicable, la peine minimale. Vous savez, il y a 81% au Canada, là, 81% des crimes de violence graves, là, on implique une arme à feu. Un homicide sur trois, c'est on implique une arme là-dedans. On a plus de 40% des crimes avec armes à feu, que ce sont des récidivistes. Donc, on a à mettre ça en lumière. Vous savez, on adresse certains symptômes avec ces lois-là, mais on n'adresse pas les causes du problème. Mmh. J'étais d'accord avec Mme Moriani tout à l'heure, là, effectivement, que les causes doivent être adressées en même temps. Donc,
la pauvreté, l'accès à l'éducation, au lieu de se demander quels sont les problèmes fondamentaux dans certaines communautés, puis on va investir de l'argent, on va aider les communautés en question. Là, on se dit, ben parce qu'il y a des problèmes dans cette communauté-là, on va tolérer un certain niveau de violence, ce qui est quand même aberrant.
Tout à fait. Puis on a des victimes en bout de ligne, hein. Et puis les victimes, il faut prendre en considération le traumatisme qu'ils subissent, ces victimes-là, hein, qu'elles subissent.
Ouais. Quelles seront, selon vous, M. De Ramon, des conséquences sur la criminalité et les fusillades, vous y avez fait référence tantôt, si le projet de loi C5 passe?
Ben, ça envoie un mauvais message, effectivement, qu'il n'y a plus de peine minimale. Bon, est-ce que ça va empêcher certains crimes de se commettre? Je pense qu'on a un plan global à mettre en place. On a un plan qui a été mis en place au niveau de Centaure, le programme Centaure, là, une stratégie québécoise de lutte contre la violence armée. On a plusieurs plans à gauche et à droite qui sont existants, qui vont regrouper les différentes parties prenantes, les organismes à but non lucratif, les gens qui travaillent sur le terrain, les municipalités, etc. Donc, tout le monde, faut qu'il soit engagé dans la même... avec les mêmes objectifs.
Mais la réalité, là, ça veut dire que si vous arrêtez criminel qui a une arme à feu, vous allez le retrouver sur la rue quelques temps après.
Ben, il se peut, effectivement, comme je vous disais, il y a des statistiques qui se trompent pas, là, environ 40% sont des récidivistes. Donc, si il n'y a pas de peine associée à ça, c'est sûr, il y a toujours du sursis qui est disponible dans le code criminel, là, mais faut-il encore qu'on soit capable de vérifier toutes les conditions qui sont mises en place par le système judiciaire? C'est un travail colossal pour les services de police.
40%, là, c'est énorme. Il y a M. Brochet, là, je reviens à lui, le président de l'Association de directeurs de police du Québec, qui disait, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que les avocats vont faire du magasinage de juges qui seront favorables à leur cause. Est-ce que c'est vrai?
Ben, oui, mais c'est pas juste dans le cas des armes à feu. Je pense que ça se fait de façon automatique là, dans nos cours de justice. Là. Bon, il y a des juges là, qui font très bien leur travail, là, soit en passant, puis on n'a rien contre la magistrature, au grand contraire. Hein. Et au niveau de la justice, on sait très bien qu'ils ont une indépendance et qu'ils appliquent la loi comme il se doit. Mais on peut pas mettre de côté certains faits qui sont portés à notre attention, effectivement, donc il y a souvent des choses qui se font.
Est-ce que c'est un projet de loi idéologique, selon vous, là, c'est basé sur le concept de racisme systémique et que vraiment une bonne partie des policiers, là, pas ce que je dis, mais ce que j'entends, sont racistes finalement, puis que vous faites du profilage racial, puis le gouvernement Trudeau n'a pas le choix d'intervenir?
Ben non, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a une surreprésentation de certaines populations des services carcéraux. Bon, comme je le disais tantôt, effectivement, c'est pas une question de racisme, je ne le crois pas. Là. Ce sont des gens qui commettent des crimes. Il y a des raisons pour lesquelles vous en avez parlé, là, la pauvreté en est une majeure là, de raisons. L'employabilité, pauvreté, etc., etc. Là, il y en a plein de facteurs sociaux qui faut regarder là-dedans. Et on est tout à fait d'accord que la surreprésentation est là, qu'il faut agir pour la surreprésentation. Mais est-ce que d'enlever les peines minimales vont faire en sorte que la surreprésentation va diminuer? Je pense que la justice, on le disait tantôt là, dans notre émission, c'est que la justice doit être aveugle. Hein? On applique la loi. Alors, il faut pas avoir une justice pour telle catégorie de citoyens, puis une autre justice pour une autre catégorie de citoyens. Il faut que ça soit équitable pour tous.
Ouais, le danger, là, puis Yves Francois m'a parlé de ça, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, policière aussi, c'est que les policiers se désengagent, hein, puis on en parle beaucoup de ça, de regarder à gauche quand il y a quelque chose qui se passe à droite, puis dire, ça c'est un paquet de troubles, là, je le vois venir.
Oui, il y a un certain désengagement qui est regardé. Il y a une tendance, je dirais. Mais les policiers, je vous avouerai franchement, c'est très rare hein, que ça arrive. Oui, ça a été porté aux oreilles des syndicats, tout à fait. Là. C'est surtout dans le cadre du profilage racial. Et c'est pour ça aussi qu'on a parti il y a 3 semaines une campagne nationale sur la valorisation de la profession. Essayer d'expliquer, de démystifier aussi les interventions policières, comment elles se font. Alors, la perception est une chose, mais la réalité en est toute une autre. Là.
Mais il y a un réel danger d'établir la criminalité d'un individu selon ses origines, la couleur de sa peau, au lieu de le baser sur le geste criminel.
Ouais, tout à fait. Et puis, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, là, il y a des rapports présententiels qui existent. Il y a des rapports GLADU aussi pour les Autochtones qui existent, de comprendre, pour que le système comprenne culturellement d'où ces gens-là proviennent. Là. Et qu'on s'assure d'avoir une justice réparatrice, entre parenthèses, là, pour la victime et pour l'accusé aussi. Là. Qu'on soit capable de mettre en place les outils nécessaires, parce que le système est un système que l'on a en place depuis fort longtemps, qui tente de récupérer les individus.
Hein. Ouais. Avez-vous l'impression que le gouvernement Trudeau oublie les victimes et les familles des victimes?
Mais dans ce cas-là, on l'a mentionné effectivement qu'il faudrait tenir compte des traumatismes causés par tous ces actes criminels importants et graves. Là.
Mais à quel point ça vous inquiète là, les tu sais, ça tire, c'est quoi là, aux deux jours à Montréal et dans toutes les grandes villes à travers le Canada, on a le même problème. On sait que la contrebande qui passe à la frontière avec les États-Unis, on n'a pas l'air à vouloir régler ce problème-là du côté fédéral. À quel point ça vous inquiète, moi?
Ben, ils sont avec nous quand même dans la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée. Là, je pourrais pas dire qu'ils veulent pas le régler.
Ben, ils mettent de l'argent, ils mettent un milliard puis ils disent aux municipalités démerdez-vous avec ça.
Oui, non, mais on a traduit ça en stratégie. Nous autres, on a quand même des équipes qui travaillent sur le terrain, des équipes intégrées qui travaillent sur le terrain. On a les corps de police autochtones qui sont avec nous dans cette lutte aussi. On a les services frontaliers aussi qui sont avec nous là-dedans. Donc, on est allé chercher les différents partenaires pour tenter de régler une situation. Puis vous savez, il n'y a pas juste, comme vous le disiez, là, des armes illicites qui passent la frontière. Là. On a de la confection aussi de certaines armes, là, qu'on appelle des ghost guns là, aussi, en 3D. Alors, il y a plein de facteurs là-dedans. Hein.
Ouais, les guns IKEA aussi, hein, les guns qui débarquent ici en morceaux, puis un armurier monte ça, puis vous pouvez pas les retracer. Ça c'est pas juste des histoires, là, Monsieur de Ramon, là, c'est réel. Là. Vous le voyez dans les rues de Montréal, entre autres. Là.
Ouais, tout à fait. Il y en a en circulation, ce qu'on appelle des ghost guns, effectivement. Alors, on tente aussi de faire changer la législation, d'arriver avec une législation pour réglementer les parties des armes à feu aussi qui ne sont pas réglementées.
Ouais.
Qu'on soit capable de retracer toutes ces choses-là. Là.
Et comment, en conclusion, M. de Ramon, comment ça a été, la réception a été de la part du gouvernement Trudeau, là, face aux commentaires, entre autres, de M. Brochet?
Ben, la réception a été très bonne au niveau du comité justice, je ne sais pas au niveau du gouvernement Trudeau, là, mais au niveau du comité justice, la réception était bonne. Même les organismes à but non lucratif qui étaient alentour de la table, qui ont fait des présentations comme nous, soit dit en passant, étaient d'accord avec la piste de solution qu'on apportait, nous autres, là, au niveau de la clause dérogatoire, là, pour le juge, dans certains cas, de pouvoir l'appliquer. Parce qu'on est d'accord que pour certaines offenses, les peines minimales, ça fait mal. C'est clair, là, quand on est dans un système qui tente de récupérer les individus, mais dans d'autres cas, des crimes graves, c'est là que le message n'est pas le bon, là, présentement.
Ouais, puis en plus, faut aussi se fier au jugement, au discernement des juges là-dedans.
Oui, ben c'est exactement le cadre de leur emploi, là.
Ben oui,
alors,
il me semble.
Ils sont nommés juges, ils ont la discrétion nécessaire pour amener des sentences en place, des sentences qui doivent être coupées au couteau excusez-moi l'expression, là, pour chaque individu. Là.
Ouais, il me semble que présentement, on devrait s'occuper des fusillades plutôt que d'alléger les peines.
On s'en occupe, monsieur.
Ouais, j'en doute pas. Ouais, mais vous devez avoir les moyens de le faire aussi, là.
Les moyens, on a mis plusieurs moyens en place. Écoutez, on est rendu, je pense, à tout près de 150 millions d'investissements gouvernementaux de part et d'autre. Là. Alors, on a mis en place des mesures, on met en place, mais ça prend du temps. Vous le savez, au niveau de monter de la preuve, de traduire les gens devant les tribunaux, ça prend excessivement du temps.
Bon, très bien. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Là. Puis voyons où ça va mener, ce projet de loi C-5. Didier de Ramon, directeur général de l'Association directeur de police du Québec. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée.